France Inter, il est 18h. Le 18-20, Claire Servageant.
Et c'est effectivement parti pour le 18-20 du dimanche. Très heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'information et de réflexion sur les conséquences de la crise sanitaire en cours. À 18h15, nous serons avec le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui termine son mandat. Il s'inquiète notamment d'une dérive des algorithmes. Il nous dira pourquoi. À 19h20, on s'arrêtera sur le cas des enfants maltraités. On se demandera notamment quelles ont été pour eux les conséquences du confinement. On verra que le nombre d'appels passés au 119 a très fortement progressé pendant ces 2 mois. Des appels des familles, des amis, du voisinage aussi. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Mais d'abord le journal de 18h. Bonsoir Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Tout un symbole en ce dimanche de Pentecôte. Le parvis de Notre-Dame de Paris, de nouveau accessible. Plus d'un an après le spectaculaire incendie de la cathédrale. Il y avait là-bas comme un goût de légèreté cet après-midi. On sera sur place dans un instant avec Emmanuel Grabé. Ce week-end, c'est aussi le grand nettoyage de printemps pour les restaurateurs qui s'apprête à rouvrir mardi. Il faut s'adapter au coronavirus et même se réinventer. Nous irons à Strasbourg. La dernière ligne droite avant le dépôt des listes pour les municipales. À Lille, c'est sûr maintenant, les Verts et le PS feront liste à part. Les États-Unis s'embrasent contre les violences policières et le racisme. Donald Trump, lui, cible les casseurs, mais les habitants de Minneapolis refusent de se laisser diviser, vous l'entendrez. Et puis on prendra des nouvelles du 15 de France en rugby. Le manager Raphaël Ibanez nous accorde sa première interview depuis l'interruption brutale du tournoi des 6 nations.
France Inter.
Il y a un peu plus d'un an, tous les yeux étaient rivés sur elle, Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie. C'était le 15 avril 2019. Conséquence, une pollution au plomb et le site aussitôt fermé. Après de nombreuses opérations de nettoyage, le parvis a donc rouvert cet après-midi, en présence notamment de la maire, Anne Hidalgo, de l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, et du ministre de la Culture, Franck Riester. Emmanuel Grabé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur place pour France Inter. Alors, on parle beaucoup des réouvertures en ce moment avec le déconfinement. Paris a la sensation de retrouver sa liberté. Mais là, Emmanuel, c'est encore un peu plus un symbole.
Oui, toutes ces réouvertures sous le soleil, il y a quelque chose de léger qui se réinstalle dans Paris et dans le cœur de Myriam. Elle était parmi les premières cet après-midi sur le parvis.
Pour moi, c'est signe d'une renaissance.
Bon, ça ne va pas rouvrir demain, Notre-Dame, c'est évident. Mais le fait de se dire, bon, déjà le parvis est ouvert, ça veut dire que c'est sécurisé. Comme ça va en plus avec l'espèce de déconfinement, je trouve que c'est un bon signe, c'est positif.
Alors même si une partie de la place reste fermée, le point zéro des routes de France, par exemple, n'est pas visible. C'est un premier pas vers avril 2024, date théorique de réouverture. Ouverture de la cathédrale. Il a fallu pour cela que la mairie pose au sol une résine transparente, qu'elle fasse un gros travail de dépollution. C'est ce qu'explique le général Georges Lain en charge des travaux.
Force de nettoyer, renettoyer, surnettoyer. Il y a une dernière campagne qui a été faite jusqu'au 20 mai. Là, on est arrivé à ce niveau acceptable. Ça répond à une volonté des commerçants. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait autour de ce chantier, un bon climat.
Alors bien sûr, les 20 millions de visiteurs annuels habituels sont encore très loin, mais ça reste une très bonne nouvelle pour Michael Haguet. Il est le vice-président de l'Association des commerçants de Notre-Dame.
On est très content, les choses bougent, il n'y a plus de plomb. Donc déjà, ça va rassurer tout le monde. On attend aussi les touristes. Ça va changer beaucoup pour les métiers de bouche et pour les restaurants. Pour les magasins de souvenirs, ça sera un peu plus compliqué. Donc les enfants vont pouvoir revenir et les adultes aussi.
Oui, c'est exactement le cas d'Akil, venu montrer pour la première fois les tours de Notre-Dame à sa petite Teina, 3 ans.
J'ai fait un vœu.
Ça fait plaisir de voir avec cette beauté, avec moins de personnes autour. C'est un plaisir.
Les chants religieux n'ont pas manqué en ce jour très symbolique de Pentecôte. Comme un fait exprès, des scouts en pèlerinage qui passaient par là sont arrivés sur le parvis en toute fin d'après-midi.
Emmanuel Grabé en direct du parvis de Notre-Dame de Paris ce soir pour Inter avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Réouverture d'autant plus symbolique que les premiers touristes étrangers sont attendus dès le 15 juin en France et qu'on s'apprête, on l'a dit, à vivre la seconde étape du déconfinement dès mardi. Cette étape, c'est enfin la sortie du tunnel pour les restaurateurs notamment qui doivent préparer leurs établissements. Il faut prévoir les équipements et les protocoles Covid-19. Pas toujours évident. Reportage à Strasbourg dans la petite pizzeria des théâtres, une rue étroite sans terrasse, Corinne Fugler.
Dans la pizzeria, et c'est son charme, les tables sont séparées par des poutres qui accueilleront bientôt des parois vitrées. Clarisse Meyer, la patronne.
Il y aura une vitre avec un cadre qu'on fixera sur les poutres et donc ça fera une belle séparation qu'on pourra éventuellement laisser par la suite. ça fera peut-être un plus. Ben, on part dans cette idée-là.
En cuisine, son mari, Yves Meyer, le chef, redoute les longues séquences masquées.
Donc en cuisine, on est quand même habitué à respecter des règles d'hygiène, mais ce sera accru. Ça va être très difficile de travailler avec des masques dans la chaleur, la transpiration, la communication entre moi et mon employé. Ça va être assez compliqué. Bon, pour la salle, on comprend, il faut des limites, il faudra les respecter. Bon, forcément, il y aura des répercussions sur les chiffres d'affaires, c'est clair, on verra bien.
Du coup, les restaurateurs ont profité du confinement pour se réinventer, histoire de limiter la casse. Yves Meyer a lancé un site de vente à emporter, les bons petits plats de papa.
Oui, je voulais faire un petit peu autre chose que mes pizzas traditionnelles et donc j'ai lancé quelques petits plats alsaciens à déguster tranquillement chez soi. J'ai profité du vide de ma cuisine, ça m'a fait beaucoup de travail en plus et donc ça m'a occupé.
Et le restaurant va également poursuivre en parallèle la vente de pizzas à emporter, démarré il y a une semaine.
Corinne Fugler de France Bleu Alsace pour France Inter. Et pour aider les restaurateurs à Bayonne, le maire a décidé de les exonérer des droits d'occupation des terrasses. La ville de Paris, elle, autorise des extensions de terrasses sur la voie publique. Retour à la normale mi-juin à la SNCF. Tous les billets de train seront à nouveau mis en vente à cette date et la règle d'un siège occupé sur deux dans les TGV sera levée. On y reviendra dans le journal de 19h. L'application Stop Covid, elle, a un léger retard. Elle ne sera finalement disponible que mardi et non ce week-end. Dossier complet sur cet outil numérique et controversé de traçage des malades à lire sur franceinter.fr. Ultime tractation ce week-end pour le second tour des municipales avant le dépôt des listes mardi à Lille. Ils sont pourtant alliés dans l'actuelle mandature, mais les socialistes de la maire sortante Martine Aubry et les écologistes menés par Stéphane Bally ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Pas de fusion donc, c'est une première depuis 2001, Willy Moreau.
Officiellement, c'est la forme qui a précipité la décision de l'équipe de Martine Aubry hier soir. Jeudi, lorsque les deux listes se sont rencontrées, les discussions ont porté uniquement sur la répartition des sièges. La liste écologiste de Stéphane Bally, 25% des voix dès le premier tour et second, juste derrière Martine Aubry, réclamait une répartition proportionnelle stricte. Inconcevable pour la liste PS qui comptait garder une majorité plus importante. Les Verts n'auraient alors plus donné aucune nouvelle. Voilà pourquoi la maire sortante a décidé de partir seul. C'est faux, mensonger pour Stéphane Bally. Il assure avoir des SMS qui prouvent le contraire. Chacun se renvoie donc la responsabilité. Alors que sur le fond, les négociations s'annonçaient déjà tendues d'avance. Beaucoup de points de désaccord entre les deux listes, comme la piétonnisation du centre-ville ou encore le forum Agora, un projet immobilier en plein cœur de Lille porté par la mairie et que Stéphane Bally critique ouvertement sur Twitter.
Willy Moreau de France Bleu Nord pour France Inter. On se dirige donc à Lille vers une triangulaire avec dans l'ordre des suffrages au premier tour le PS, les Verts et la République en marche.
Il est 18h08 sur France Inter, la suite du journal d'Alexandra Dubouchereau. Aux États-Unis, Alexandra, les villes pansent leurs plaies après des nuits de colère.
Oui, particulièrement Minneapolis où est mort George Floyd, cet Afro-Américain brutalement arrêté lundi dernier. Il a été sans le vouloir à l'origine de l'embrasement d'une partie du pays, de Los Angeles à New York en passant par Détroit, Atlanta et Houston. Des heurts ont encore éclaté cette nuit dans une trentaine de villes pour dénoncer les bavures policières et les discriminations raciales. À Minneapolis, les forces anti-émeutes ont chargé les manifestants et des commerces ont été saccagés et incendiés. Mais Loïc Lory, les habitants des quartiers les plus touchés ne semblent pas particulièrement remontés contre ces casseurs.
We have free food if anybody cares for free food.
Des cupcakes et des sandwichs au pulled pork gratuits distribués dans la rue. John et Franny pourtant ont vu leur restaurant dégradé la nuit précédente. À les entendre, pourtant pas de rancœur contre les responsables. Quelques vitres cassées, quelques dollars perdus ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. C'est tout ce qu'on peut faire plutôt que de rester assis toute la journée. On se sent mieux, on essaye de comprendre la motivation des gens en espérant que ça s'arrange. Elisa déguste l'un de ses sandwichs au soleil. Elle vient d'aider à fixer des planches de bois pour protéger les devantures de petits commerces et elle non plus ne reproche rien, en tout cas pas encore, dit-elle au casseur.
Ce n'est pas forcément sain de distinguer les manifestants de ceux qui pillent les casques qui ont arrêté ce policier. Je crois que les autorités ont en fait admis que les émeutes avaient accéléré le processus. Alors je ne leur en veux pas tant que ça.
Sentiment qui semble partagé par une armée de balayeurs volontaires mobilisés autour d'une banque incendiée la veille. Sarah leur distribue des bouteilles d'eau. Elle est un peu plus circonspecte.
Je ne crois pas que ces émeutes soient une bonne chose, que ce soit productif. Mais je soutiens les manifestants et on n'en est plus au chacun pour soi.
Des citoyens qui auront sans grand doute encore du travail ce dimanche. Minneapolis, Loïc Lory, France Inter.
Les obsèques de George Floyd sont prévues aujourd'hui à Houston, au Texas, et la contestation s'étend aussi à Londres, au Royaume-Uni, où des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer la mort de cet Afro-Américain de 46 ans. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, annonce une sixième et dernière prolongation de l'état d'alerte jusqu'au 21 juin à cause du coronavirus. Ce dispositif permet de limiter la circulation des personnes durant le déconfinement progressif du pays. Aux amateurs de rugby, je vous le disais dans les titres, cette interview exclusive pour France Inter, le manager de l'équipe de France de rugby, silencieux depuis le début de l'épidémie. Le tournoi Destination a été stoppé net en mars. Aujourd'hui, les Bleus peuvent et doivent revenir plus fort. C'est le message que veut faire passer Raphaël Ibanez. Il répond à Fanny Lechevestrier.
Les sorties médiatiques du staff de France sont rares, alors quand l'un de ses membres prend la parole, c'est qu'il est vraiment temps de battre le rappel des troupes, à commencer par les joueurs.
On ne mesure pas réellement l'impact physique et psychologique d'une telle période, mais ce qui est certain, c'est qu'un joueur international doit s'astreindre à un cadre de vie strict pour à nouveau jouer des matchs internationaux, et nous y serons très vigilants.
Et depuis les Landes, où il a traversé le confinement en famille, Raphaël Ibanez martèle un message clair, novembre sera un mois capital pour le 15 de France.
Quel que soit l'adversaire, c'est que nous soyons en mesure de battre ses adversaires pour gagner une à deux places au classement mondial. C'est le cap fixé aux joueurs.
Pour aller chercher une place de tête de série pour le tirage au sort fin novembre de la Coupe du Monde 2023 en France. Et pour cela, le manager le répète, tout doit permettre aux Bleus d'être dans les meilleures conditions possibles à l'automne.
Le huis clos temporaire, c'est peut-être mieux que pas de rugby du tout. Les joueurs, en tout cas, sont faits pour être sur le terrain et ça, c'est leur raison d'être. Et je suis convaincu que les nouvelles dates internationales qui vont être fixées seront vraiment une belle opportunité pour remettre le rugby sur le devant de la scène. Les gamins ont besoin de s'identifier à des joueurs. Donc le 15 de France, c'est le seul moyen pour un joueur de haut niveau d'accéder à ce statut d'icône.
Avec une certitude répétée au cours de l'entretien, les Bleus sont le moteur du rugby français, l'équipe nationale, un maillon essentiel pour sortir ce sport de la crise sans précédent qu'il traverse.
Fanny Lechevestrier pour France Inter. Et allez les Bleus, bien sûr.
Ah oui, merci beaucoup Alexandra Dubucheron. Dans un instant, le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Prévision de Jean-Michel Golinski.
Un lundi au soleil pour les régions de la moitié nord, plus précisément du nord de la Loire à la frontière allemande, avec toujours ce vent d'est plus sensible l'après-midi. En revanche, plus bas, l'ambiance sera souvent plus mitigée, plus chargée en nuages, avec le développement progressif d'ondées, voire même d'orages, en particulier sur le relief. Les températures maximales des villes les plus à l'est, jusqu'à présent un peu en retrait par rapport aux autres régions, vont augmenter pour afficher 26 à 30 degrés sur une grande partie du territoire et 22 à 24 sur les littoraux de la Manche.